D'être chanté. J'avais commencé la prophétie avant qu'elle ne commence son chant. Et son chant est venu confirmer ce que j'étais en train d'écrire. C'est pour ça que j'ai fait une réflexion tout à l'heure. Tellement j'étais surprise moi-même. Va avec la force que je t'ai donnée. Ce qu'il ordonne. Et voici. Il s'adresse à une personne au milieu de nous, une dame qui a des responsabilités avec des enfants. Souviens-toi, mon enfant, te dit le Seigneur, que jamais je ne te délaisserai. Jamais je ne t'abandonnerai. Je suis le père des orphelins et des veuves. Je connais chacune de tes responsabilités et je susciterai des personnes qui t'aideront en te soutenant par leurs prières et même par de l'aide pratique. Pour le moment, tu te débats toute seule avec tes responsabilités. Mais moi, je viens à ton secours, je viendrai à ton aide. Car tu fais là mon œuvre, te dit le Seigneur. Tu pourras alors, quand je t'aurai donné assez d'aide, tu pourras alors déléguer certaines de tes responsabilités. Et alors, tu pourras t'adonner davantage à la prière et à la recherche de ma face. Et l'œuvre que j'ai commencée au travers de ta vie, je l'achèverai, dit le Seigneur, pour ma gloire. Non, pour la gloire des hommes, pour ma gloire, dit le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te prions tout d'abord pour cette personne qui est concernée. Nous savons que tu ne parles pas pour rien dire et que tu achèves l'œuvre que tu commences en nous. Nous voulons, nous, être disponibles pour faire ta volonté, non la nôtre, pour être conduits par ton esprit et pas par nos propres pensées. Nous pouvons nous égarer, Seigneur, mais toi, tu ne fais pas d'erreur. Alléluia, Seigneur. Et tu suscites en nous la foi nécessaire pour croire que ce que tu dis, tu l'accomplis aussi. Merci, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Et là, je voudrais continuer de parler de quelques miracles importants que nous avons vus ces dernières années. Et le Seigneur s'est manifesté par la puissance de sa résurrection, sa puissance de vie. C'était au Burkina Faso, il y a 3 ans, ou 4 maintenant peut-être. Nous faisions un séminaire, ce qu'ils appellent là-bas un petit séminaire pour les pasteurs, 500 pasteurs, c'est le petit pour eux. Et c'était juste pour la ville de Ouagadougou, les pasteurs des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Nous avions été invités pour la circonstance, et comme le Seigneur le fait toujours, après les messages de Samuel, j'apporte les paroles de connaissance que le Seigneur me donne au fur et à mesure qu'il me les donne, ou parfois il me les donne avant. Et là, j'ai dit au séminaire, j'ai dit, il y a un pasteur ici qui a laissé sa femme très malade à la maison. Je ne connaissais pas cette situation du tout, je n'avais jamais vu ces pasteurs, j'en connaissais aucun de près. Mais la situation était bien plus grave que ce que je disais même, mais ça n'empêche pas le Seigneur d'agir. Mes paroles ne sont moins. Le Seigneur n'est pas limité non plus à la faiblesse de mes paroles. Et j'ai dit, le Seigneur est en train de guérir cette femme gravement malade à la maison. Il s'est trouvé qu'un pasteur avait laissé sa femme non seulement très gravement malade, mais mourante, sur son lit de mort, renvoyée par l'hôpital de Ouagadougou, par les médecins, disant, pas la peine d'ouvrir, les intestins sont tout pourris, laissez-la aller mourir à la maison. Et elle était sur un lit d'agonie, elle était agonisante depuis 10 jours sur son lit de mort, au bord de la tombe, comme je l'étais moi. Et au moment où cette parole, au séminaire, où était son mari, et quel courage pour ce mari de venir au séminaire avec une femme mourante à la maison. Je ne sais pas lequel d'entre nous aurait fait ça. Il fallait qu'il ait la foi aussi, cet homme-là. Et une obéissance au Seigneur pas mal grande. Hein? Enfin, le Seigneur honore celui qui l'honore. Et au moment où cette parole a été donnée au séminaire, elle qui était à des kilomètres dans sa maison, agonisante, voyant les gens, les anges de la mort venir, elle m'a décrit tout ça après. Il y avait un combat entre la puissance de Dieu et les démons de la mort qui voulaient venir la chercher avant l'heure. Elle vivait tout ça très près. Et au moment où cette parole a été dite au séminaire, elle a entendu la voix du Seigneur lui dire, « J'ai une de mes servantes qui est en train de prier pour toi, je vais te guérir. » Et la puissance de Dieu qui est venue, comme moi, pareil, comme un grand faisceau lumineux, et qui, elle était presque aveugle, pour ainsi dire paralysée, à la mort, et au moment où ce faisceau lumineux est descendu sur elle, elle l'a traversée de part en part, elle a pu sauter de son lit, courir dehors, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia, alléluia, femme d'un pasteur, alléluia. Oh, mais sois-tu, Seigneur, tu n'es pas limité. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Cette femme est toujours vivante. Les gens qui la voient dans la rue pensent que c'est son ombre ou son fantôme. Ils ne croient pas à l'histoire, là. Ils disent, c'est pas elle, c'est pas possible, elle est morte. Et cette femme-là a été vraiment miraculeusement sauvée de la mort. Deux jours après, elle était à mon séminaire de dames. Et elle était en première ligne et je ne savais pas que c'était elle. Mais j'ai vu la gloire de Dieu sur cette femme. Elle était maigre, la peau et les os, comme on dit. Mais le rayonnement de cette personne, elle avait été touchée par Dieu, pas seulement dans son corps, dans son être tout entier. Elle reflétait la gloire de Dieu. Elle était noire, mais moi je la voyais blanche. J'ai dit, vous, madame, venez nous dire ce que le Seigneur a fait pour vous. Et c'était la dame en question. Elle a dit, il y a deux jours, j'étais sur mon lit de mort, et c'est vous qui avez dit là-bas. Et j'ai entendu la voix de Dieu, etc. Et puis, cette dame, c'était pas n'importe qui. Le Seigneur s'est servi de ce miracle puissant de sa grâce pour nous ouvrir davantage le Burkina Faso. C'est le Seigneur est merveilleux.
Amen.
Et je me souviens encore d'un autre miracle. C'était quelques mois avant. C'était quand la femme avait été guérie. On faisait des réunions d'évangélisation. Et parmi une des paroles à la fin, quand après l'appel, le Seigneur donne des paroles, et à un moment donné, le Seigneur m'a fait dire qu'il touchait une jeune femme qui avait un goitre. Vous savez ce que c'est qu'un goitre? C'est visible, là. Hein? Et gros, c'était une jeune femme. C'est la glande thyroïde. Grosse, grosse, comme ça. J'ai dit, le Seigneur touche une femme qui a un goitre, ou une personne, je ne sais plus. Je ne sais plus comment j'ai dit. Et au moment où cette parole est venue, le goitre a disparu. Il est rentré. Terminé. Gros. Comme ça. Alléluia. Et ce soir-là, il y a eu une haute merveilleuse guérison du Seigneur. C'était une femme qui était venue dans des souffrances atroces à cette réunion d'évangélisation. C'était une chrétienne, une jeune dame. Et cette dame avait eu un accident de travail. C'était une laborantine qui travaillait donc dans un laboratoire et qui faisait des analyses. Et pas avec ses analyses et son travail, dans son travail, elle a pris de l'acide dans les yeux. Ce qui lui a brûlé les yeux et pratiquement elle était... Il n'y avait plus de récupération possible, les yeux allaient le brûler, elle allait être aveugle. Mais là, ça venait de se passer, et ça brûlait, mais les docteurs avaient déjà dit, c'est fini là, hein, vous allez perdre la vue, c'est terminé, les yeux sont brûlés là. Alors elle était à la réunion. Et le Seigneur a simplement dit, je touche quelqu'un qui a des yeux qui brûlent. Les brûleurs s'en vont. Les yeux cessent de couler parce qu'ils coulaient tout le temps. Et cette femme a été touchée instantanément. Les brûlures ont disparu. Elle a pu lire mieux qu'avant. grâce à la puissance du Seigneur, grâce à l'amour du Seigneur, grâce à la compassion de notre Seigneur. Ô Seigneur, sa compassion dépasse tout ce que nous pouvons penser. Nous, parfois, on pense, oh, il nous a laissé, il m'a abandonné, le Seigneur. Je souffre, il ne fait rien, le Seigneur. Pensez-vous. Je crois que le Seigneur, il s'occupe plus de nous qu'on le pense. Et il est plus près de nous que nous le pensons aussi. Seulement, il faut venir avec un cœur simple, un cœur sincère, et puis un cœur qui veut obéir au Seigneur. Et là, j'ai un dernier témoignage qui s'est passé ici au Canada. Il y a 3-4 ans, c'est le pasteur Charles Boucher qui est témoin de ça. C'est lui qui a écrit le témoignage pour nous, qui a suivi l'affaire. Nous étions à Gatineau et nous faisions des réunions avec le pasteur Charles Boucher dans son église quand il était là-bas. Et à un moment donné, dans une des réunions, le Seigneur a donné cette parole de connaissance qui dit qu'il y a quelqu'un qui souffre d'une grave décalcification des os. Seulement, l'histoire, c'était plus grave que ça aussi, mais la personne n'était pas là. Seulement, il y avait son fils à la réunion. Et j'ai dit, le Seigneur Jésus touche cette personne, là où elle se trouve. Et il se trouvait qu'à la réunion, il y avait donc son fils, et à la fin de la réunion, il a dit, ça, c'est ma mère, ce que vous avez décrit. J'ai décrit encore d'autres symptômes ou d'autres choses qui caractérisaient la personne. Il a dit, ça, c'est ma mère. Et puis, formidable, ça. C'est que cette femme, elle avait le cancer des os. Elle était en alitée, elle ne pouvait plus se lever. Et vous savez, le cancer des os, c'est le cancer le plus douloureux, d'après les médecins. C'est votre carcasse, là, qui se rompt, qui est décalcifiée, plus que décalcifiée, rongée par le cancer. Ça fait très, très mal. Et cette femme, 74 ans, dans son lit. Le fils à la réunion. Après, lui, il prend ça pour sa mère, comme dans votre cas. Il prend ça pour sa mère, lui. Il rentre à la maison, il trouve sa mère debout. Debout! Debout! Avec le cancer des os. Elle était guérie. 3 jours après, elle faisait ses courses. Et 3 semaines après, elle faisait ses boîtes, son déménagement, toute seule, à 74 ans. Alléluia, Seigneur! Oh, Jésus! Merci, Seigneur! Merci, Seigneur! Tu es le Dieu des miracles. Tu n'as jamais changé et tu ne changeras jamais et personne ne pourra te faire changer. Quand tu dis, tu accomplis. Seigneur, louange à toi, Seigneur. Oh, gloire! Gloire à toi! À toi la gloire, Seigneur! Tu es merveilleux! Et je sais que le Seigneur en a touché quelques-uns tout à l'heure. Je pense que ce serait bien que vous donniez un petit mot de témoignage selon que vous avez à cœur par des paroles ce matin. Mais maintenant, je vais laisser la place à Samuel. Seigneur, merci, Seigneur, de ce que tu bénis ta parole, la prédication de ta parole. Il envoya sa parole et les guérit. Le Seigneur peut guérir pendant la prédication aussi. Il envoya sa parole et les guérit. Attendez-vous à l'attouchement du Seigneur si vous en avez besoin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Seigneur, nous te remercions une fois de plus pour ta compassion, pour cet amour qui nous dépasse. Nous sommes confondus devant ce que tu fais.
Oh oui.
Et nous ne pouvons que te dire merci. Et à ton nom soit toute la gloire. Seigneur, tu es merveilleux dans toutes tes œuvres. Oh Jésus, Jésus, toi seul es digne de recevoir l'hommage, la louange et l'adoration de nos cœurs. Merci Seigneur. Veuille encore nous instruire selon tes désirs. Seigneur, tu sais combien nous avons besoin d'être nourri par ta parole. afin de toujours mieux te connaître, toujours mieux t'aimer, toujours mieux te refléter, te servir. Seigneur, ouvre notre esprit encore. Ouvre mon esprit afin que nous puissions discerner ta voix.
Amen.
Et que cette parole tombe dans un cœur bien préparé. Et afin que cette parole porte du fruit, et un fruit qui demeure.
Amen.
Merci Seigneur. Inspire ainsi, selon les besoins des cœurs, par le Saint-Esprit que tu nous as donné, pour glorifier Jésus.
Amen.
Et nous conduire dans toute la vérité. Merci encore pour ce que tu vas faire cet après-midi, Seigneur, car tu es là. Et notre attente est en toi et en toi seul. D'avance, merci pour tout, Seigneur. Amen.
Amen.
Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est bon encore de rester dans sa présence. Il y a d'abondantes joies devant sa face. Et des délices éternelles à sa droite. Il est toujours là pour nous encourager et nous aider à aller plus loin. Nous vivons des temps prophétiques. Nous savons tous que le retour du Seigneur est proche, n'est-ce pas? Et j'aimerais dire quelques paroles sur cette pensée-là. Comment être prêt pour le retour du Seigneur. Ce sera un peu le titre de mon message. Comment être prêt pour le retour du Seigneur? Comment être prêt? Et pour cela, il y a un merveilleux exemple dans la Bible, dans l'Ancien Testament, de quelqu'un qui a été enlevé. Vous connaissez son nom? Ça commence par H et ça finit par C. Enoch. Il a été enlevé, et je crois que là aussi, puisqu'il a vécu un enlèvement, et qu'un jour, les vrais chrétiens, rachetés par le sang de Jésus, et qui appartiennent au Maître totalement, un jour, ceux-là seront enlevés aussi. C'est la glorieuse espérance des chrétiens. Le retour du Seigneur pour enlever son épouse.
Amen.
Comment être prêt pour ce jour-là? Eh bien, Enoch va encore nous aider. Comme il a été enlevé, il est dit aussi que son témoignage fut agréable à Dieu dans l'Épître aux Hébreux 11. Et là, nous allons lire dans Genèse chapitre 5, Genèse 5, les versets 21 à 24. Il est parlé d'Enoch ici, et il est dit ceci: Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methuselah. Enoch, après la naissance de Methuselah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Alors nous allons nous attarder sur un verset, il est dit au verset 21-22, Enoch, donc après la naissance de Methuselah, Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Alors, nous allons retirer 5 pensées importantes. Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Nous allons nous arrêter sur ces 5 pensées très importantes. Parce que dans chacun de ces mots, il y a un message. Il y a un message. Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Cinq pensées très importantes. Comment être prêt pour le retour du Seigneur? Premièrement, Enoch était prêt parce qu'il était consacré à Dieu. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que le nom d'Enoch signifie consacré. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas quelque chose que j'invente. Le nom d'Enoch veut dire consacré. Et nous savons que dans la Bible, les noms ont toujours une signification. Les noms ne sont pas donnés au hasard. Il y a toujours un sens précis. Il y a toujours un message. Rien n'est fait au hasard. Enoch était donc un homme consacré à Dieu. Voilà donc le premier message pour chacun d'entre nous ici. Si nous voulons être prêts pour le retour du Seigneur, nous devons être consacrés à notre Dieu. Amen. La consécration n'est pas seulement pour les pasteurs ou les missionnaires. Une fois, une chrétienne nous a dit ça. La consécration, c'est pour vous, les pasteurs, les missionnaires. Mais elle prenait la liberté de vivre un peu à sa guise. Je crois qu'elle n'a pas compris quelque chose d'important. Beaucoup de chrétiens ont accepté Jésus comme leur sauveur, mais ils l'ont renié comme leur
Seigneur.
Voilà.
C'est ça.
Exactement. Alors là, il y a une vérité importante. Nous savons que dans la Bible et dans l'Ancien Testament, lorsqu'un sacrifice était offert à Dieu, lorsque le sang avait coulé, lorsque ce sacrifice était offert à Dieu au travers du sang versé, une fois ce sacrifice offert, ce sacrifice appartenait désormais à Dieu. Si c'était un objet sanctifié par le sang, purifié par le sang, il était ensuite consacré à Dieu. Si c'était une personne, c'était ainsi. La personne était purifiée par le sang du sacrifice. Tout ce qui est purifié par le sang appartenait ensuite à Dieu. Il y a là une vérité pour vous et pour moi. Trop de chrétiens restent à cette première pensée. Jésus, son sang m'a lavé de mes péchés. Jésus est mon sauveur. Alors ils sont tout contents. Mais à côté de cela, ils vivent comme ils veulent. Jésus n'est pas leur Seigneur. Et ces chrétiens oublient que si Jésus nous a purifiés par son sang et qu'il est notre sauveur, désormais, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais à celui qui est mort et ressuscité pour nous. Amen.
Amen.
Ça, c'est là, il y a là une vérité extrêmement importante.
Amen.
Trop de chrétiens ont Jésus comme sauveur, mais ils le renient comme Seigneur. Et en cela, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que lorsqu'il devient notre sauveur, il soit aussi le Seigneur de notre vie. Parce que ce qu'il sauve doit être ensuite consacré à Dieu pour le servir d'une manière ou d'une autre. Amen.
Amen.
Voilà une première vérité. Donc, si nous voulons être prêts pour le retour du Seigneur, cette simple vérité-là, si Jésus est notre sauveur, il doit devenir notre
Seigneur.
Un vrai chrétien, c'est celui qui dit, « Seigneur, me voici, tu m'as sauvé, désormais ma vie t'appartient pour faire ta volonté et non la mienne. » Jésus est-il seulement votre sauveur? Sans qu'il soit le Seigneur, vous êtes sur un terrain dangereux. Le salut n'a pas été saisi pleinement. C'est encore un demi-salut. Le plein salut en Christ C'est Jésus qui nous purifie par son sang. Et si nous avons compris tout cela, la seule réponse de notre part, c'est de dire maintenant, « Me voici, Seigneur, ma vie t'appartient. » Comme Paul, lorsqu'il s'est converti, « Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. »« Me voici, Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Immédiatement, Paul a livré sa vie au Seigneur et il lui a dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Et c'est pour cela que le Seigneur l'a utilisé, parce qu'il a entièrement livré sa vie à son maître. Enoch, consacré, pouvez-vous dire que votre vie est consacrée? L'avez-vous fait un jour? C'est un point important. L'apôtre Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis, je vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Il y a là une vérité extrêmement importante. Trop de chrétiens végètent dans leur vie spirituelle. Ils disent qu'ils sont sauvés, mais ils font ce qu'ils veulent. Ils vont où ils veulent. Ils regardent ce qu'ils veulent. Ils entendent ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ça ne leur vient même pas à l'esprit. Est-ce que le Seigneur est d'accord? Est-ce que le Seigneur est d'accord avec ce que je regarde? Est-ce que le Seigneur est d'accord avec ce que j'entends? Car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas faire avec vos yeux ce que vous voulez, ni avec vos mains ce que vous voulez, ni avec votre corps ce que vous voulez, ni avec votre bouche ce que vous voulez.
Amen.
Tout cela appartient à Dieu. Si ça appartient à Dieu, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est là une vérité extrêmement importante. Et tant que nous ne la saisissons pas, nous pouvons tourner en rond dans notre vie spirituelle pendant des années et des années. Enoch, un homme consacré. Autrement dit, il a dit un jour à son Dieu, « Ma vie ne m'appartient pas, elle est toute à toi. » Et ma vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout notre être. Pas seulement mon esprit, il y en a qui donnent leur esprit au Seigneur, mais qui gardent leur corps pour eux. Ça ne marche pas, ça. Votre être tout entier doit être livré au Seigneur. Esprit, âme et corps. C'est cela que le Seigneur veut, pas seulement votre esprit. Votre être tout entier. Et quand on réalise cela, alors on fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on vit. Tout change. Tout change, absolument tout change. Avez-vous consacré tous vos membres au Seigneur? Cela lui appartient. Ça ne vous appartient pas, ça lui appartient. Et tant que vous ne le faites pas, il y a toujours une insatisfaction profonde dans le cœur du chrétien. Parce qu'on a été créé pour adorer et pour appartenir au Seigneur. Amen.
Amen.
Et tant qu'on vit pour soi-même, on sera malheureux. C'est celui qui vit pour le Seigneur qui est heureux. Et celui qui vit pour lui-même, il est malheureux. La prière du chrétien doit être chaque jour, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais certains chrétiens ont l'impression qu'ils font la prière à l'envers. Non pas ta volonté, mais ma volonté. Et après, ils sont étonnés de ce que ça n'aille pas. Ils sont étonnés de ce que leur vie spirituelle ne porte pas de fruits. Et qu'ils végètent dans leur vie spirituelle. À un moment donné, et le plus vite possible dans notre vie chrétienne sera le mieux. Désormais, Seigneur, tu m'as sauvé. Je ne m'appartiens plus à moi-même, mais à celui qui est mort et ressuscité pour moi. Et mon être entier est à toi, Seigneur.
Amen.
Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence vraiment à vivre la vraie vie chrétienne.
Amen.
La vraie vie chrétienne, elle est là, à ce moment-là. Tant que vous retenez quelque chose, il y aura toujours une tristesse profonde en vous, une insatisfaction, comme pour dire, il y a quelque chose que tu n'as pas encore livré. Et n'attendez pas que Dieu le fasse, c'est vous qui devez le faire. N'attendez pas que Dieu fasse ce que vous devez faire.
Amen.
Vous n'êtes pas un automate. Vous n'êtes pas un robot. C'est vous qui devez obéir. Et quand vous obéissez, Dieu agit. Et les choses commencent à se passer. Mais Dieu ne peut agir tant qu'on ne fait pas le pas nous-mêmes. Parce que Dieu ne force personne. Il ne va pas vous forcer. Ce à quoi vous tenez, si vous ne voulez pas l'abandonner, Dieu ne va pas vous forcer. Il ne vous forcera jamais. Quand on lit les évangiles, Jésus n'a jamais forcé personne. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Avez-vous remarqué? Si quelqu'un, il ne force personne. Mais une fois que nous venons à lui, à ce moment-là, c'est selon ses termes à lui qu'on doit marcher. Alors à ce moment-là, on fait plus ce qu'on veut, mais on doit faire ce qu'il veut. Si quelqu'un, tu veux vivre ta vie, tu peux la vivre. Mais si tu dis que tu me suis et que tu vis ta propre vie, alors là, il y a une contradiction. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu ne veut pas ça dans notre vie. Sauver pour être consacré à notre Dieu. Voilà pourquoi Dieu vous a sauvé. Non pas pour vivre pour vous-même maintenant, mais pour lui être consacré. Et quand on dit consacré, c'est tout votre être. Les yeux, la bouche, les mains, tout. Tout. Si Jésus ne peut pas faire avec vous ce que vous faites, alors vous faites quelque chose que vous ne devez pas faire. C'est tout simple. Si Jésus ne peut pas le faire, je ne dois pas le faire. C'est tout simple. C'est pas plus compliqué que ça. Puisque nos membres sont les membres de Christ. Et que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Avez-vous passé par ce chemin-là? Enoch, un homme consacré, à un moment donné, on doit en arriver, Seigneur, maintenant ça suffit. J'ai assez vécu pour moi-même. Je fais toujours ce que je veux. Et je réalise que je tourne en rond. Maintenant, c'est terminé. Ce que tu veux. Comme tu veux, où tu veux, quand tu veux. Je veux faire ta volonté. Et la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Il y en a qui ont peur de faire la volonté de Dieu. Vous vous rendez compte, quelle tragédie. Mais la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite, nous dit la Bible.
Amen.
C'est notre volonté personnelle qui est mauvaise, qui est du poison. Mais la volonté de Dieu, c'est du miel.
Amen.
Elle est bonne, agréable et parfaite. Au sein des combats, au sein des difficultés. Mais quand c'est sa volonté, il y a une paix infinie qui règne dans notre cœur et qui nous permet de surmonter les épreuves et les difficultés. Parce que nous ne sommes jamais seuls, il est avec nous. Ce qu'il a commencé, il l'achève. Le bon berger est là et il nous conduit pas à pas sur le sentier qu'il a préparé lui-même pour vous. Écoutez-moi bien, mes chers amis. Dieu a un plan pour chacun d'entre vous ici.
Amen.
Consacré à Dieu, ça veut dire que maintenant que vous êtes consacré, Dieu a un plan pour votre vie.
Amen.
Un plan. Il n'y a pas de chômeur avec Dieu. Chaque membre est actif. Vous êtes d'accord avec moi? Chaque membre doit être actif. Et on a besoin de tous les membres. Regardez encore votre corps. Tous les membres travaillent. Un membre qui ne travaille pas va commencer à paralyser les autres. Et c'est le début un peu de la, de beaucoup de problèmes. Et dans le corps de Christ, chaque membre doit être actif. Chacun a quelque chose à faire. Et comment est-ce que ça commence? Toujours par les plus petites choses. Et c'est là que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Ils veulent commencer par des grandes choses. Mais Jésus a dit, celui qui est fidèle dans les... Même la version grecque vous dit, celui qui est fidèle dans les plus petites choses. Pas les petites choses. Les plus petites choses. Voyez-vous jusqu'où va le Seigneur? On lui confiera des grains. Avec le Seigneur, ça commence comme ça. Donc, personne ne peut trouver d'excuse devant le Seigneur. Tout le monde ici peut faire les plus petites choses. Amen. Personne, un jour, vous ne pourrez pas dire au Seigneur, mais Seigneur, moi, tu sais bien, je ne pouvais pas faire ceci, j'étais pas, y a pas, c'était trop grand pour moi. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a parlé de grand? Celui qui est fidèle dans les plus petites choses. Tu pouvais faire, j'avais préparé pour toi un sentier, un chemin, pour toi, personnellement. Il y a un plan pour chacun d'entre nous. Et quand je regarde ma propre vie, moi qui étais un jeune homme timide, renfermé, jamais j'aurais pensé qu'un jour je puisse parler comme ça à des auditoires, et même à de grands auditoires. Jamais, jamais. Mais voilà que Dieu peut faire de grandes choses. Mais nous avons dû commencer petit, et j'ai dû commencer petit. Très petit. Très petit. Beaucoup en nous voyant disent, oh là là, avec tous ces miracles, tout ça, moi c'est ce que je veux. Ça peut être un bon désir, mais le chemin ne commence pas par le bout, par la fin. Il y en a qui veulent commencer par la fin. Il y a un commencement. D'accord. Le Seigneur te dit, d'accord, c'est moi, je veux. Oui. Seigneur, il veut t'aider, te bénir. Bon, d'accord. Alors tu viens, tu recules un petit peu, un peu plus, encore? Oui, encore un peu plus, encore? Encore? Oui. Non, ça suffit maintenant. Non, non, encore, encore. Mais ça suffit maintenant. Non, encore, encore. Oh non, pas plus, mais non, encore, encore. Tu dois aller jusqu'au commencement. Être fidèle dans les plus petites choses. Je dis souvent cette pensée. Je ne sais pas si je l'ai dit ici. Entre les grandes choses que nous ne pouvons pas faire et les petites choses que nous ne voulons pas faire, nous risquons de ne rien faire du tout. Voilà le problème. Ça, c'est trop grand, je peux pas. Ça, c'est trop petit, je veux pas. Et alors, on est là, on attend. Nous risquons de ne rien faire du tout. Et c'est ainsi avec beaucoup. Un jour, vous serez étonnés de voir tout ce que le Seigneur a préparé pour chacun d'entre vous au ciel. Il te dira un jour, j'avais préparé tout cela pour toi, mais tu n'as pas marché dans mes voies. Tu as voulu commencer grand, mais moi, je voulais que tu commences tout petit. Et si tu avais été fidèle dans les moindres choses, je t'aurais conduit plus loin, plus loin, plus loin. Et tu aurais fait ce travail, ou ce ministère, ou ces choses. Voilà, c'était pour toi. Quelle honte à ce moment-là. Quelle humiliation. Seigneur, est-ce possible? Mais oui. Dieu a préparé pour chacun d'entre nous quelque chose. Mais soyons assez humbles pour commencer petit, petit, petit. Avec les hommes, ça commence toujours grand. Et en général, ça finit toujours petit. Avec Dieu, ça commence très petit. Et ça va toujours en grandissant. Voilà. Quand nous sommes consacrés à ce moment-là, Dieu peut vraiment commencer son travail. C'est seulement le début. Ah oui, je suis consacré, mais non, ça y est, oulala, c'est extraordinaire, c'est beau, c'est la fin. Non, c'est le début. Et c'est le début de la vie chrétienne en plus. Oh bon, moi j'ai cru que c'était la fin. On n'en est qu'au début encore là. Quand on fait les choses comme Dieu veut, eh bien, on peut avancer lentement, mais on avance sûrement. Et on va longtemps.
Oui, on va loin.
Et on va loin. Il y a un proverbe italien qui dit, pour ceux qui connaissent l'italien, ne m'en dites pas plus parce que j'en sais pas plus. Qui va piano va sano, et qui va sano va lontano. Qui va piano va sano. Celui qui va lentement va sûrement. Et celui qui va sûrement va loin, marche longtemps, va très loin. Voilà. Mais qui va piano va sano, qui marche lentement va sûrement. Voilà. Il ne faut pas être pressé avec le Seigneur. Il n'y a rien qui presse. Il faut simplement aller à son rythme. Amen. Alors on va voir la deuxième qualité. Sinon, vous n'avez rien à voir. Hein. Il faut que je vous donne au moins les cinq qualités. Voilà. Dieu, alors, qu'est-ce qu'on a dit? Enoch marcha. Oui, consacré. Alors, deuxième, toi, marcha. Voilà la deuxième vérité ici. Enoch marcha. Alors, vous voyez, la vie chrétienne est une marche quotidienne, tous les jours. Certains chrétiens ont pensé que la vie chrétienne était une course de vitesse. Avez-vous remarqué, certains chrétiens, ils commencent leur vie chrétienne.
Non, je n'ai rien.
Ah bon, j'ai cru que j'avais dit une bêtise alors.
Non, il n'y a pas de bêtise.
La vie chrétienne, pour certains, on dirait que c'est une course de vitesse, un 100 mètres par exemple. Ils vont très vite, mais ils s'arrêtent. Et puis, il n'y a plus rien. Alors, au début, c'est prometteur, extraordinaire. Et on a dit, moi, j'ai connu certains chrétiens au début de leur vie chrétienne. Extraordinaire. Il y avait même des dons, des talents. Merveilleux. Mais vous allez les voir quelques temps après, il n'y a plus rien du tout. Ils ont disparu. La vie chrétienne, pour eux, c'était un 100 mètres, une course de vitesse. Ils sont arrêtés et il n'y a plus rien du tout. Mais la vie chrétienne n'est pas une course de vitesse. C'est un marathon. Un marathon, c'est une marche, si vous voulez. Mais c'est un marathon. Un marathon. Hein? C'est une course d'endurance. C'est un marathon jusqu'au retour du Seigneur. Il faudra marcher. C'est un marathon. C'est une marche. On peut aller lentement, mais ça ne fait rien. L'important, c'est d'avancer. Le lièvre et la tortue, hein? L'histoire, la fontaine. Le lièvre et la tortue. Hein, le lièvre, il a bien couru, mais qui est-ce qui a gagné finalement? C'est la tortue. L'autre, le lièvre, il est là. Oh, moi, je peux me balader. Hein, il est allé un peu de partout. Le lièvre, la tortue, tout doucement. Et l'autre. Et finalement, le lièvre n'a pas gagné. C'est la tortue. On peut avoir beaucoup de talent, mais finalement, ne pas accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Enoch marcha. La vie chrétienne est une marche. Une marche. Une marche quotidienne. Ça veut dire que vous marchez, vous avez marché aujourd'hui. Ça veut dire qu'en sortant d'ici, vous continuez de marcher. Ça veut dire que ce n'est pas seulement à l'église qu'on marche comme un chrétien, mais c'est en sortant de l'église, c'est en entrant dans le bureau, c'est en étant à l'usine. On marche et c'est partout qu'on doit être des témoins.
Amen. Amen, amen.
J'observe certains chrétiens dans l'église, c'est des vrais anges. Ils chantent comme des anges, mais dès qu'ils quittent l'église, ce n'est plus les mêmes. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe en eux. Ça change. À la maison, c'est des petits démons. Oh là là. C'est dur. Mais ne soyons pas surpris. On peut être surpris du témoignage de certains chrétiens. À la maison, quand personne ne les regarde. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais à l'église, non, non. Oh là. On met le beau costume, là. Cravate, tout, impeccable. C'est une marche. Cela veut dire que à l'église, au travail, partout, je dois refléter le Seigneur. Et il ne faut pas qu'il y ait dans ma vie chrétienne, voilà, le dimanche, c'est pour le Seigneur, et le reste, c'est pour moi. Les chrétiens du dimanche. Chrétiens du dimanche. Et dès qu'on quitte l'église, on n'est plus la même personne. Mais n'est-ce pas une tragédie, cela ? On a l'impression que d'un seul coup, c'est comme si on enlevait le vêtement religieux qu'on avait. On met un vêtement, un beau vêtement religieux, et en quittant, on l'abandonne. Et puis après, on fait ce qu'on veut. Non. Enoch marcha. Donc la marche nous parle d'une marche quotidienne et d'une marche personnelle aussi. C'est quotidien, partout où on va. On doit refléter la personne du Seigneur. Mais c'est aussi une marche personnelle. Enoch marchait personnellement. On ne marche pas pour faire plaisir à son épouse, ou à sa femme, ou à ses enfants, ou à ses parents. On marche pour le Seigneur, pour faire plaisir au Seigneur. C'est une marche personnelle.
Amen.
Enoch marchait personnellement avec son Dieu. Et là, il y a aussi une vérité importante. Si nous marchons pour faire plaisir à l'un ou à l'autre, eh bien, tôt ou tard, ça n'ira pas. On ne sera pas satisfait. Mais on doit marcher pour faire plaisir au Seigneur. Une marche personnelle. C'est merveilleux cela, n'est-ce pas? Voilà ce que Dieu attend de nous. Enoch marcha avec Dieu. C'était personnel. Il avait cette intimité personnel. Ensuite, c'est une marche aussi volontaire. Il n'y a rien de forcé. C'est volontairement que nous marchons, que nous suivons le Seigneur. C'est volontairement. Tout ce qu'on fait pour le Seigneur, la Bible nous dit de le faire de bon cœur. De bon cœur. Faites tout comme pour le
Seigneur.
Regardez ce passage. Et là, il y a une vérité importante. Tout ce que nous faisons, nous ne devons pas le faire pour les hommes, ou apparemment c'est pour les hommes, mais dans notre cœur, nous devons le faire comme pour le
Seigneur.
Et c'est alors que nous aurons la récompense. Si nous le faisons comme pour les hommes, alors tôt ou tard, nous allons nous décourager, car nous allons attendre de l'un ou de l'autre des récompenses. Et si nous attendons des récompenses, nous allons nous arrêter. Et nous n'allons plus rien faire. Nous le faisons volontairement comme pour le Seigneur. C'est cela qui est merveilleux. Et si nous le faisons comme pour lui, alors nous aurons une récompense. Enoch marcha. Une marche. Donc c'est là une marche personnelle, quotidienne et volontaire. Enoch marcha avec avec. Et cette fois, c'est une marche dans une communion intime, avec. Quand on marche avec quelqu'un, on marche dans une communion intime. Troisième qualité d'Enoch, c'était une marche dans une communion intime avec son Dieu. Voilà, c'est la vie chrétienne, c'est celle-là. C'est une marche dans une communion intime. Dieu devient notre Père, Jésus devient notre berger, et nous suivons le berger, nous écoutons les conseils du Père, nous sommes en communion, et ainsi nous suivons le chemin, mais dans une communion intime. Et là encore, il y a une autre vérité importante, chaque chrétien doit avoir sa communion personnelle avec le Seigneur. Avez-vous une communion intime et personnelle avec le Seigneur? Il y a là un point très, très important. Vous savez, on peut faire beaucoup de réunions, on peut faire beaucoup de choses, mais sans avoir expérimenté cette communion intime avec le Seigneur. Tout peut être très superficiel. Tout très superficiel. On peut comme être entraîné par toutes sortes d'activités, de choses, mais sans avoir cette communion intime, personnelle avec Dieu. Enoch marcha avec, souligne la communion intime. Et pour avoir cette communion intime, 1 Jean 1,7 va nous aider. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1,7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus continue de nous purifier de tout péché. Il y a là la clé d'une communion intime avec le Seigneur. Si nous marchons dans... Voyez, marcher encore. Si nous marchons dans la lumière, pour une bonne communion, il faut réaliser d'abord que Dieu est lumière. Beaucoup de chrétiens appuient uniquement sur l'amour de Dieu.
Ah, Dieu est amour.
Mais on ne parle pas beaucoup que Dieu est lumière. Que Dieu est un Dieu saint qui ne supporte pas le moindre péché. Dieu est lumière. Le Dieu que nous servons, que nous connaissons, est un Dieu de lumière aussi.
Amen.
Pas seulement un Dieu d'amour. Et si nous ne mettons que l'accent sur le Dieu d'amour, il y a un déséquilibre. Il faut aussi réaliser que notre Dieu est un Dieu de lumière. Alors, Dieu est lumière. Et quand nous réalisons que notre Dieu est lumière, alors à ce moment-là, sa lumière sonde nos cœurs et nos reins, n'est-ce pas vrai? Et quand nous réalisons que nous avons eu une mauvaise pensée, une mauvaise parole, un mauvais regard, quelque chose qui a déshonoré le Seigneur, tout de suite, on demande au Seigneur de nous purifier par son sang. Et vous voyez, la lumière provoque le désir d'être purifié. Et si nous ne marchons pas dans la lumière, dans un Dieu de lumière, on n'aura jamais ce désir. Si c'est toujours le Dieu d'amour que nous avons dans notre tête, bon, on se dit Dieu est amour, il m'aime tel que je suis, donc je peux faire ce que je veux. Quelle erreur! Quelle illusion! Et beaucoup de chrétiens se font des illusions puisque Dieu est amour. Dieu est plein de grâce. Il me pardonnera toujours, c'est son métier. C'est son métier de pardonner. Oui. Un chrétien qui joue avec le péché, c'est un chrétien qui est en grand danger spirituellement parlant. Enoch marcha avec. Si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons réaliser que Dieu est lumière. Cette lumière, si nous sommes vraiment en communion avec lui, met toujours en évidence ce qui n'est pas sa gloire. Amen. La lumière divine ne dit pas, oh, c'est rien du tout ça. Cette pensée impure que tu as, c'est rien du tout. Cette parole méchante que tu dis, c'est rien. C'est pas... Comment c'est rien? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta communion avec le Seigneur, c'est simplement une religion, un point, c'est tout. C'est une religion, c'est pas une communion avec une personne. C'est un vêtement religieux qu'on a sur soi.
C'est ça, juste ça.
Mais Dieu est lumière. Et si nous sommes vraiment en communion avec ce Dieu de lumière, la lumière pénètre en nous, n'est-ce pas vrai? Sonde nos cœurs et nos reins. Et quand nous avons une mauvaise pensée, une mauvaise parole, une mauvaise action, tout de suite nous devons venir. Seigneur, pardonne, purifie. La lumière, voyez-vous, nous conduit à être purifiés.
Amen.
C'est ce que l'Esprit de Dieu en nous veut faire. Et dire que nous sommes en communion avec Dieu et que nous pouvons rester des mois ou des années comme cela, sans purifier nos cœurs, ou nos regards, ou nos pensées, de choses mauvaises. Où est notre communion? Il n'y a pas de communion. Il y a une religion, c'est tout.
Oui, c'est ça.
Il y a une religion. Mais il n'y a pas de communion intime. Si nous sommes vraiment en communion avec ce Dieu de lumière, cette pénètre parole, cette lumière pénètre en nous, nous sonde, nous transperce. Mais jamais pour nous condamner. Toujours pour nous dire, voilà mon enfant, ce qui ne va pas. Dans ton regard, tes paroles, tes gestes, tu as fait quelque chose là qui n'était pas la gloire du Seigneur. Confesse cela. Et le sang de Jésus te purifiera. Dieu est lumière. Ensuite, cette lumière nous pousse à confesser notre péché. Et cette confession apporte la purification. Dieu est lumière et nous montre ce qui ne va pas, nous le confessons et nous sommes purifiés. Et une fois que nous sommes purifiés, la communion est rétablie avec le Seigneur. Amen. Car nous ne pouvons pas avoir une communion intime s'il y a le péché dans notre vie. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est l'évidence même. C'est pas une vérité extraordinaire que je vous dis. Mais beaucoup encore, là aussi, ils pensent qu'ils peuvent être en communion avec Dieu, avec le péché dans leur vie. Mais c'est impossible. C'est impossible. Dieu est lumière. Nous pousse à confesser. Nous sommes purifiés. Et une fois purifiés, nous avons la communion de nouveau rétablie avec Dieu. Et une fois que la communion est rétablie, ça finit toujours par une consécration. Me voici, Seigneur. Désormais, mes yeux, mes mains, mon être entier t'appartient pour faire ta volonté et non la mienne. Amen. Voilà. Et Enoch marcha avec Dieu maintenant. Nous allons méditer quelques instants là-dessus. Dieu. Ce n'était pas n'importe qui, c'était Dieu. On a vu que Dieu est lumière. Mais il y a d'autres vérités importantes concernant Dieu. Quand on marche avec Dieu, on doit marcher dans l'obéissance. Vous ne pouvez pas marcher longtemps avec Dieu sans obéir à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Enoch marcha avec Dieu longtemps parce qu'il continuait d'obéir à son Dieu. Donc dire que je marche avec Dieu et que je n'obéisse point à sa parole, à ce qu'il me dit, c'est une illusion. Je ne marche pas avec Dieu. C'est une illusion. Si Dieu est Dieu, alors je suis le serviteur et il est le maître. Mais malheureusement, pour beaucoup de chrétiens, c'est l'inverse. On a l'impression que Dieu est leur serviteur et eux, ils sont les maîtres. C'est Dieu qui doit obéir à leur caprice. Vous vous rendez compte? Oh Dieu, je te demande de faire ceci, je te commande. Vous vous rendez compte? Quel genre de Dieu est-ce? C'est une illusion. Pouvez-vous commander à Dieu? C'est nous qui devons nous soumettre à lui. Et non pas lui, à nous. Il est Dieu. Il n'est pas votre serviteur. Nous sommes ses serviteurs.
Amen.
Amen. Maître parle, ton serviteur. Écoute, si nous marchons avec Dieu, Dieu est un Dieu auquel on obéit. Et si nous marchons vraiment avec Dieu, il y a autre chose qui se passe. Nous marchons dans l'humilité. Amen. Si vous êtes vraiment près de Dieu, mes amis, alors vous réaliserez qu'il n'y en a qu'un qui est grand, c'est Dieu. C'est le Seigneur. Et que nous, à côté, nous sommes tout petits. Tout petits. Tout petits. Et que nous lui donnerons toujours toute la gloire. Toute la gloire. Plus nous sommes près de Dieu, plus nous réaliserons notre petitesse. Mais plus nous sommes éloignés de Dieu, plus nous réalisons notre grandeur, supposée grandeur. Et Dieu est tout petit, et nous, nous sommes très grands. Ça dépend de la proximité que nous avons avec Dieu. Mais si nous marchons près de lui, alors nous réaliserons que notre place est d'être à ses pieds, dans l'humilité.
Amen.
Et qu'en toute chose, nous devons lui donner toujours toute la gloire. Amen. Ça, c'est un signe qui nous montre si un chrétien marche vraiment avec Dieu. Ça se voit son humilité. Son humilité. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais rien reçu? Ce que nous avons, c'est une grâce. Et si Dieu vous utilise, c'est une grâce. Ce n'est pas à cause de vos mérites. Tout ce qu'il veut faire, il veut le faire. Mais à condition que vous le donniez toujours toute la gloire. Dieu attend des hommes et des femmes qui soient prêts toujours à lui donner toute la gloire. Et beaucoup de chrétiens et même des prédicateurs ont joué avec la gloire de Dieu. À un moment donné, ils ont pris la gloire de Dieu pour eux-mêmes. Et tôt ou tard, c'était la catastrophe. Tôt ou tard, car Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme, ni son honneur aux idoles. Jamais. Jamais. Et si nous marchons avec Dieu, nous devons marcher avec humilité. Et lui donner toujours toute la gloire. Et vous serez étonné de voir tout ce que Dieu peut faire dans une vie qui a décidé de donner toujours toute la gloire à Dieu. Amen.
Amen.
Toute la gloire à Dieu. Si Dieu vous utilise, est-ce que vous lui donnez toute la gloire? Ou est-ce que vous en prenez un petit peu pour vous? C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Rien pour vous. Tout pour lui.
Amen.
Combien de fois je dis dans ma prière, rien pour moi, Seigneur, mais tout pour toi.
Amen.
Faisons cette prière souvent. Ou non pas ma volonté, mais ta volonté. Ou rien pour moi, mais tout pour toi.
Amen.
Et que ce soit du fond du cœur. Rien pour moi. On n'est pas là pour se faire un nom, mes amis. On est là pour glorifier le nom de Jésus.
Amen.
Le nom de Jésus.
Amen, Seigneur.
Veillons à cela. Parce que devant Dieu, on peut travailler toute sa vie, même chrétienne, en essayant de se faire un nom ou une réputation. Et au jour du jugement, devant le tribunal de Christ, absolument tout perdre. Tout va passer au feu et sera détruit. Attention. Veillons bien. Vos motivations sont-elles bonnes en tant que chrétien? Est-ce pour la gloire du Seigneur? Est-ce par amour pour les âmes? Est-ce dans l'obéissance à sa parole? Toutes ces choses sont des flèches qui doivent pénétrer au plus profond de nous-mêmes. Amen. Alors Dieu ne peut pas bénir ce qui est en dehors de sa parole. Enoch marcha avec
Dieu.
Dieu, on doit lui obéir. C'est lui le maître. Et nous sommes ses serviteurs. Et il est un Dieu aussi. Il ne donnera jamais sa gloire à un autre. Enoch marcha avec Dieu pendant combien ?
300
ans. C'était une marche persévérante. Une marche persévérante. Vous vous rendez compte ? 300 ans ? 300 ! Nous, on vit combien ? Personne ne peut vivre jusqu'à 100 ans. Maximum, un peu plus, certains. Mais, vous vous rendez compte ? 300 ans, quelle persévérance ! Malgré les combats. Il a dû en avoir des combats personnels, des combats dans la famille, des combats dehors, dans son travail, tout le monde. À ce moment-là, je vous assure, les gens n'étaient pas des grands croyants, au contraire, c'était des grands rebelles. La méchanceté, la violence étaient grandes sur cette terre. Puisqu'après, il y a eu le déluge. Et il persévéra. C'est lorsque nous sommes vraiment en communion avec Dieu que nous pouvons persévérer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Dieu a commencé une œuvre dans ta vie. Persévère pour qu'il puisse l'achever aussi. Beaucoup commencent bien mais finissent mal. Malheureusement. Et Dieu ne peut pas continuer son œuvre dans leur vie. Persévère. Avec ce que Dieu t'a donné, persévère. Va jusqu'au bout. Ne t'arrête pas. Que personne ne t'arrête. Et Dieu achèvera l'œuvre dans ta vie. Comme Paul, que nous puissions dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Jésus lui a dit, j'ai achevé l'œuvre que le Père m'avait confiée. Paul a dit, j'ai achevé l'œuvre que le Père m'avait confiée. Que nous puissions tous dire à la fin de notre vie, j'ai achevé l'œuvre que le Seigneur m'a confiée. La persévérance. Persévérant jusqu'au bout. Il revient bientôt et sa rétribution est avec lui. Amen.
Amen.
Voilà les cinq caractères d'Enoch. Si ces choses sont en nous en abondance, il n'y aura aucun problème lorsqu'il reviendra. Alléluia. Que son nom soit béni et que sa parole puisse porter du fruit dans nos cœurs. Seigneur, merci encore pour ta parole qui est la vérité.
Merci Seigneur.
Seigneur, que ces qualités d'Enoch puissent être en nous. et en nous en abondance, afin que nous ayons un témoignage agréable de ta part. Nous voici, Seigneur, pardonne-nous, purifie-nous, sonde-nous. Si nous avons fait des choses, ou si nous sommes dans une situation qui te déshonore, d'une manière ou d'une autre, garde-nous, Seigneur, de nous séduire nous-mêmes par de faux raisonnements. Mais donne-nous de réaliser que tu es un Dieu de lumière et que tu veux sonder nos cœurs, non pas pour nous condamner, mais pour nous purifier, afin de nous aider à marcher en vainqueur et pour vaincre, et à te glorifier pleinement dans notre vie. Nous voici, Seigneur, tu nous as sauvés pour être consacrés à toi, comme Enoch, consacré à Dieu. Est-ce que nous voulons être maintenant et renouveler notre consécration tous les jours de notre vie, jusqu'à ton retour qui est prochain, qui est rapide et qui est imminent. Ô Seigneur, nous voici. Prends nos vies et utilise-les pour ta gloire. Amen.
Amen.
Restons dans le recueillement quelques instants encore. Merci Seigneur. Gloire à ton nom.
Je propose que nous nous levions.
Gloire.
Nous sommes dans la présence du Seigneur.
Oh, béni sois-tu, Seigneur.
Et après un message comme celui-là, il n'y a qu'une chose à faire pour commencer. C'est de reconsacrer chacun pour soi, sa propre vie.
Amen.
Je pense que le Seigneur nous a parlé certainement, aux uns d'une manière, aux autres d'une autre. Est-ce qu'il attend de nous maintenant? C'est notre réponse.
Amen.
Le Seigneur ne donne pas des messages comme ceux-là pour qu'on n'en fasse rien. Il attend une réponse de notre part. Alors que chacun pour soi, maintenant, devant le Seigneur, prenne la résolution selon ce que le Seigneur lui aura pointé du doigt dans sa vie personnelle.
Seigneur.
Seigneur, nous sommes devant toi.
Oui,
chacun de nous, nous avons quelque chose à revoir.
Mon cœur et mes reins.
Parce que qui est suffisant? Nous avons besoin de ta grâce et nous avons besoin d'obéir et de nous reconsacrer périodiquement. Seigneur, si nous pensons que notre vie chrétienne te satisfait pleinement, nous nous faisons largement des illusions. C'est certain. Parce que tu as certainement eu quelque chose à nous dire à chacun par ce message. Seigneur, moi je prends ma part et je veux progresser et encore progresser dans l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ton esprit sonde les cœurs et les reins. Et nous voulons nous laisser sonder par toi. Parce que c'est ainsi que nous avancerons. Que nous ferons des progrès dans notre vie chrétienne. Chaque fois que j'ai pris une décision devant le Seigneur, un peu plus tard, m'a fait voir que cette réponse-là que j'ai donnée ce jour-là, en me reconsacrant à lui, a porté ses fruits, que j'ai avancé d'un pas. La vie chrétienne n'est pas une course, c'est un marathon, comme il a été dit. C'est un pas après l'autre.
Amen.
Un pas après l'autre.
Alléluia.
Et aujourd'hui, nous pouvons faire un pas. Ceux qui veulent faire un pas, ils peuvent le faire. Un pas d'obéissance.
Alléluia.
À ce que Dieu vous a montré cet après-midi au travers de ce message. Merci, Seigneur. Seigneur, puisses-tu trouver en chacun de nous un cœur obéissant, désireux de faire ta volonté et non sa propre volonté. Et de t'établir comme Seigneur. Et d'arrêter de disposer de nos vies comme nous le voulons.
Amen.
Seigneur, pardonne toute décision personnelle, toute idée personnelle, toute attitude personnelle. Et nous voulons aussi apprendre de mieux en mieux à marcher par l'Esprit, à être conduits par l'Esprit, pour ne plus accomplir les œuvres de la chair.
Amen.
Mais être des chrétiens spirituels et non des chrétiens charnels, qui tout le temps retombent dans les mêmes travers et les mêmes habitudes. Nous voulons apprendre à changer nos habitudes aussi.
Alléluia.
Je veux apprendre à changer mes habitudes, là où je dois les changer. Ô Seigneur, merci.
Alléluia.
Merci pour ta grâce.
Oh, merveilleux.
Merci pour ce message.
Alléluia.
Merci de t'adresser à nous comme un père merci. Qui éduque ses enfants. Et comme un professeur, nous enseigne tes voies. Louange et puissance et gloire.
Alléluia.
À toi, Seigneur.
Alléluia.
Amen.
Amen.
Amen. Deux paroles prophétiques. Pour des personnes en particulier. Je t'ai donné un ministère particulier. J'aime entendre le son de ta voix et tu te reconnaîtras dans ces paroles. Le chemin que je t'ai fait parcourir sur terre, te dit le Seigneur, consistait en beaucoup de souffrances et de brisements. C'était épreuve sur épreuve, brisement après brisement. Mais aujourd'hui, te dit le Seigneur, je viens un peu de baume sur ton cœur brisé. Parce qu'il y a un coin de ton cœur qui est encore souffrant. Et je suis venu guérir les cœurs brisés. Je suis venu t'apporter la consolation dont tu as besoin. Mon esprit est un esprit de consolation. Et il agit dans ton cœur. Et il console là où les hommes n'ont pas pu te consoler. Personne n'a pu te consoler. C'est en secret que toutes ces choses se sont passées. Et c'est pourquoi il n'y a que moi qui connais vraiment cette souffrance-là. Et je viens mettre mon baume aujourd'hui. Merci Seigneur pour le baume que tu mets aujourd'hui sur ce cœur brisé. Là où il se trouve. Seigneur, tu n'oublies personne. Tu penses à chacun de nous. Et tu nous vois comme un livre ouvert. Tu sais exactement ce qui est encore souffrant, ce qui n'est pas brisé. Tu connais toutes choses, Seigneur. Tu sais là où il y a encore la désobéissance. Nous sommes devant toi. Merci pour ce cœur brisé que tu viens consoler profondément. Merci. Louange, louange. Louange à toi, Seigneur. Un jour, quand nous serons là-haut, il essuiera toute larme de nos yeux. Qu'est-ce que ce sera ? Nous avons tous pleuré, certainement, plusieurs fois dans notre vie. Déjà sur la terre, le Seigneur nous a consolés par son esprit de consolation. Combien de fois ? Et là-haut, nous serons consolés pour toujours. Pour toujours, pour toujours. Quelle félicité ! Quel beau monde ! Est une personne qui a beaucoup pleuré à cause de nombreuses afflictions à la chaîne. Je viens aujourd'hui t'apporter ma consolation de paix. Tu n'as pas eu un papa comme les autres, mais moi, je suis ton père céleste. Tu es mon enfant et je te sers sur mon cœur. J'apaise en toi cette souffrance par l'action de mon esprit qui est le grand consolateur. Et par cette consolation que j'applique sur ton cœur aujourd'hui, je te donnerai le moyen de consoler d'autres personnes qui ont passé par la même souffrance que toi, qui ont été comme toi dans l'affliction. Que cet esprit de consolation dont tu es l'objet aujourd'hui puisse dorénavant continuer d'œuvrer au travers de toi sur les affligés que je vais t'envoyer. Alléluia, Seigneur.
Alléluia.
Alléluia. Toi, tu peux consoler un cœur brisé. Quand les hommes ne peuvent plus rien pour nous, nous sommes tes enfants.
Alléluia.
Tu sais si bien nous consoler, comme personne ne sait le faire. Merci pour ton esprit de douceur.
Amen.
Et de consolation que tu déverses sur tes enfants ici présents,
merci.
Ceux qui en ont besoin, ceux qui n'ont jamais pu exprimer leur souffrance aux hommes mêmes. et qui pourtant ont un cœur qui crie vers toi. Seigneur, tu es merveilleux. Il y a encore du baume en Galate. Il y a encore un baume pour ton cœur brisé auprès du Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia.
Merci, Seigneur.
Et le Seigneur va encore toucher quelques, deux, trois personnes. Il y a quelqu'un ici qui a des problèmes intestinaux chroniques, parfois proches de l'occlusion intestinale. Tu as été en danger plus d'une fois, mais aujourd'hui, le Seigneur vient rencontrer ce besoin-là. Et il pose sa main sur tes intestins afin qu'ils fonctionnent, qu'il n'y ait plus ce problème majeur dans ta vie qui t'handicape. Merci Seigneur de ce que tu touches aujourd'hui. Ces intestins-là aussi, afin que cette personne puisse digérer normalement et que tout se passe bien. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et il y a une personne qui a une douleur dans un genou qui l'handicape souvent, qui t'handicape souvent dans les travaux. Tu as des douleurs et parfois c'est tellement souffrant, ça fait tellement mal que tu es obligé d'arrêter les travaux que tu fais à cause de cela. Eh bien, le Seigneur est venu rencontrer cela aussi aujourd'hui. Alors reçois-le, reçois cet attouchement du Seigneur.
Alléluia.
Et dis merci. Merci Seigneur.
Amen.
Tu connais ce problème que j'ai depuis longtemps. Merci Seigneur. Tu viens poser ta main sur moi et tu enlèves cette douleur. Je prends cette guérison que tu me donnes aujourd'hui.
Merci Seigneur.
Louange à toi Seigneur.
Louange à toi.
Et une dernière chose. Il y a quelqu'un ici qui a le système immunitaire défectueux. Tu attrapes toujours tous les microbes qui courent, les maladies qui courent. Eh bien, le Seigneur peut rétablir ce système-là aussi. C'est lui ton créateur. Ne peut-il pas rectifier ce qui est handicapé? Seigneur, merci de poser ta main sur ce système
Amen.
Défectueux.
Amen.
Et que dorénavant, cette personne soit résistante à toute maladie.
Amen.
Au nom de Jésus, je
Amen.
Te demande et je te remercie.
Merci Seigneur.
Pour ton attouchement. Alléluia, sois béni, sois glorifié, sois élevé. Merci. Seigneur, tu es le Dieu des interventions.
Alléluia.
Merci Seigneur. Et merci pour ce que tu as fait au milieu de nous. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Je demanderai au groupe musical de s'avancer. Et de jouer doucement. Alléluia, quelque chose. Restons dans la présence du Seigneur. Alléluia, alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus, Jésus. Merci, Seigneur. Merci d'être au milieu de nous. D'avoir touché, consolé, guéri. Oui. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Et vous savez, quand le Seigneur nous touche, il faut avoir aussi une réaction. Celle de dire, je vais tout de suite dire que j'ai été touché. Pas comme les 10 lépreux. Il n'y en a qu'un qui est venu dire merci. Ça attriste beaucoup le Seigneur quand on a reçu quelque chose et qu'on ne vient pas dire merci au Seigneur. Parfois, nous avons vu des personnes perdre leur guérison à cause de ça. Le Seigneur n'encourage pas le manque de reconnaissance. Alors, je donnerai l'occasion à ceux qui veulent bien rendre témoignage de ce qu'ils m'ont dit, ces personnes-là. Ils sont venus me le dire, alors je pense...
Oui. Peut-être avant que nos amis chantent, le chant...